Chapitre 22. Quand, dans une situation comme celle où était placée Madame d'Iguin ce soir-là, on fait appel non à des amis, mais à de simples relations, la détresse dans laquelle on se trouve en est encore accrue. C'est donc à des indifférents, dont la seule raison d'être était de nous distraire de nous-mêmes, que nous allons demander un réconfort. À 9h30, Simone avait été prise d'une grande frayeur. Les jours de course, une foule mêlée envahissait Fontbonne. Charles avait pu être victime d'une agression. Il gisait peut-être à demi-mort dans un fourré. Bientôt, elle n'y tint plus. Elle téléphona à la sous-préfecture. « Je suis chez vous dans un instant, » lui dit M. Pichon, le sous-préfet. C'était un homme de 45 ans, grand blessé de guerre. Il était sympathique. Il disait cependant trop souvent « C'est l'homme qui vous parle », sous-entendant ainsi que la vie professionnelle est une chose et la vie privée une autre. Il trouva Simone qui l'attendait dans la rue de Gommerie, devant la grille d'entrée. C'eût été son frère, M. Veil même, elle se fût jetée dans ses bras. « Comme c'est aimable de vous être dérangé !» dit-elle en cachant son émotion. Il lui parla, comme ferait un médecin, à l'enfant qui interromprait sa consultation. Au moment les plus graves, l'homme de cœur, masqué par une fonction à laquelle il attachait une grande importance, reparaissait. En cette circonstance pénible, il se sentait le devoir d'être plus qu'un ami ordinaire. Comme le médecin, cette fois au chevet d'un moribond, qui, après une piqûre de morphine, envisagera une saignée, et après cette saignée un sondage, et après ce sondage une transfusion du sang, dont la science demeurera toujours aussi grande, quoique le malade continue à décliner, il proposa tout de suite, entre autres choses en son pouvoir, de téléphoner au commissaire de police, à l'hôpital Saint-Joseph, à la gendarmerie. La perspective de cette mise en branle effraya Denise. Il le sentit. « Vous avez raison, nous allons attendre encore un peu. Mais je vais tout de même prévenir notre ami doyen. » Peu après, le jeune directeur de la succursale du comptoir d'escompte arriva. L'atmosphère changea aussitôt. Deux hommes protégeaient une femme. Ils eurent un aparté. « Vous n'avez pas encore téléphoné au commissaire ?»« Non, pas encore. »« Il faut le faire. » »« Bien, je vais téléphoner. » M. Pichon prit l'appareil, mais M. Baquet, le commissaire, n'était pas là. « Il n'y a rien de neuf ?» demanda le sous-préfet au planton, sans prononcer le nom de Digoin. « Il n'y avait rien de neuf. »« Nous allons attendre encore, » dit-il en se rasseyant. « Votre mari a pu rencontrer des amis, aller au cinéma, que sais-je. S'il n'est pas là à minuit et quart, minuit et demi, j'aviserai. On fera faire des rondes, on téléphonera à l'hôpital. » Un peu après 11h, lorsque Charles d'Iguin rentra enfin, le sous-préfet lui demanda, les premières effusions passées, ce qui lui était arrivé. Tout le monde attendait la réponse de Charles. La vue des autos lui avait fait préparer une nouvelle explication. « Je me promenais derrière le château des Roches, » dit-il, « lorsque tout à coup, j'ai senti que la tête me tournait. Je me suis assis sur le bord du chemin. Que s'est-il passé alors? Je n'en sais rien. Mais lorsque je suis revenu à moi, il faisait nuit noire. » Simone, dont le père était mort d'une crise d'urémie, chercha à savoir si cet évanouissement n'avait pas été une syncope. Le sous-préfet et M. Doyen s'étaient regardés. Il n'aimait pas Charles d'Iguin, il le trouvait sournois, il ne lui pardonnait pas de les inviter à dîner et de ne pas les reconnaître ensuite lorsqu'il les rencontrait en ville. Son explication leur avait paru baroque. Ils avaient eu le même soupçon. Quand un mari trompe sa femme, il ne rentre pas avec une mine pareille. Il prévient s'il ne dîne pas à la maison. Il est un homme comme les autres. Quelque chose de gaillard émane de lui. C'est plutôt quand on a un vice à satisfaire qu'on agit si étrangement. Quel vice? Il le saurait bien un jour. La présence des deux hommes était désormais inutile. En sortant, ils aperçurent une ombre s'avancer à bicyclette vers le chalet. C'était le commissaire de police. Le planton, que personne n'avait chargé de cette commission, avait été le prévenir. M. Baquet s'était immédiatement levé. Pour faire du zèle, il était accouru. « Venez, venez, monsieur Baquet, il n'y a rien pour vous ici aujourd'hui. » Trois mois après, monsieur et madame d'Iguin quittaient Fontbonne. Leur bail n'était pas arrivé à expiration. Les efforts qu'ils avaient faits pour en obtenir la résiliation avaient été inutiles. Le propriétaire avait proposé un compromis. Il accorderait à ses locataires l'autorisation de sous-louer pendant la dernière année. L'agent de location fit de temps en temps visiter le chalet, se contentant, pour la pièce où s'enfermait alors Simone, de faire une description sommaire. Mais la belle saison était passée et personne ne voulait habiter Fontbonne. Simone avait rendu des visites. Elle partait pour Paris, avait-elle dit. De là, elle ne savait pas encore où elle irait. Cela dépendrait beaucoup de son mari. Le vieux médecin qui avait examiné ce dernier ne lui avait rien trouvé de grave. Ils avaient reçu une lettre de Maurice. Simone la rut distraitement, puis la remit à son mari qui la déchira, puis en sema les morceaux un à un en se rendant en ville. Il y avait eu aussi une question de meubles à régler. Beaucoup d'entre eux ne plaisaient plus à Simone ou ne valaient pas la peine d'être déménagés et mis au garde-meubles chez Combalou. À ce sujet, le commissaire-priseur, maître Bassilvert, qui était de ses amis, lui rendit plusieurs visites. Il se trouva chaque fois dans une situation délicate. En même temps qu'il se lamentait sur le départ de sa chère amie, il lui fallait faire des expertises, prendre des notes, établir des listes, arrêter les détails de la vente. Il se tira d'ailleurs très bien d'affaire. Simone avait prié ses fournisseurs de lui envoyer leurs factures. Tous furent ponctuels, sauf un. Il était mort. Son successeur, pour s'attirer la bienveillance de la clientèle qu'il reprenait, attendait de nouvelles commandes avant de présenter les factures en souffrance. « Mais je quitte Fontbonne, monsieur !» avait dit Simone. Il avait alors répondu, d'une façon assez inattendue, « Dans ce cas, madame, vous ne me devez rien. » Tant d'ordre fit qu'une semaine avant leur départ, M. et Mme d'Igouin se trouvaient à Fontbonne comme dans une ville étrangère. Plus personne ne sonnait à la grille du chalet. Une domestique était partie. L'autre avait gardé sa chambre, mais elle ne faisait plus son service. Ils prenaient leur repas au restaurant. Ils se sentaient aussi libres, aussi heureux que lorsqu'ils étaient arrivés. Parfois, ils rencontraient une figure de connaissance. On se saluait encore, mais il était visible que tout était fini. Enfin, un matin, ils s'étaient fait conduire à la gare, à cette même gare où tant de fois ils étaient partis pour la journée seulement. La marchande de journaux, le contrôleur, les cochers, les porteurs ne se doutaient pas que c'était la dernière fois qu'ils voyaient M. et Mme d'Igouin. Il n'y avait rien eu dans leur salut à eux de différent. Simone et Charles passèrent quelques jours à Paris. Puis, un soir, ils se rendirent à la gare de Lyon. La journée avait été pluvieuse. C'était une vraie soirée de Paris, brumeuse et illuminée. Ils ne cherchèrent pas un compartiment vide. Le porteur, qui avait hissé leurs bagages dans les filets, leur indiqua deux places. Ils ne pensèrent pas qu'il n'y en avait peut-être ailleurs de meilleures. Ils eurent un regard aimable pour le monsieur et la dame seule, déjà installés dans ce compartiment. Ils acceptaient avec plaisir des compagnons de voyage. Puis le train partit. Une petite conversation s'ébaucha. À 11 heures, le monsieur demanda la permission d'éteindre. Maintenant, tout le monde somnolait. Seul Charles avait les yeux ouverts. Une joie profonde lui faisait goûter ce voyage dans l'obscurité comme un spectacle. Quand, après s'être assoupi, il se réveillait brusquement, sa joie était toujours aussi grande. 3, 4 ou 5 heures plus tard, les coups frappés à chaque jonction de rail devinrent plus doux, moins nombreux. Le train ralentissait. Bientôt, il s'arrêta. Il y eut un silence. Personne ne bougeait dans le compartiment. Soudain, de la nuit, une voix d'homme bien éveillé, mais calme, indifférente au sifflement de vapeur qui la couvrait, cria en traînant sur la fin du mot « Druny ! Druny ! Druny !»« Où sommes-nous ? » demanda Simone. « À Druny. » Elle eut un mouvement des épaules qui signifiait « Ah, ce n'est que Druny !» Puis elle referma les yeux.